Daf Vav Amoud Alef à la quatrième ligne. Bahou Miné et Merava, on a posé la question à Rava. Behemat Arnona Chayevet Bevchora ou En Chayevet Bevchora. Est-ce qu'un animal de Arnona, c'est-à-dire de la taxe du roi, est-ce que il faut le din de Bechor s'applique à cette bête ou pas? Ça veut dire que une bête qui donne naissance à un Bechor, ce Bechor il faut le donner au Kohen, dans le cas où le Bechor n'a pas de défaut. Donc c'est un corban que le Kohen doit porter au Beth Amikdash. S'il y a un moum, si ce Bechor a un moum, donc le Kohen le consomme. Et là on parle d'une taxe, le roi percevait une taxe sur les animaux qui naissaient. Donc il prenait un dixième des animaux qui naissaient. Et normalement, un Bechor qui appartient à un Goy, il n'est pas Khayav de Bechora, ou même s'il y a, même s'il est en partie, si c'est une association entre un Juif et un Goy, à partir du moment où c'est ce qu'on appelle Yad Nochri Baemtsa, ça veut dire que le Goy a la main mise sur ce Bechor, il n'y a pas de Khayav de Bechor, donc on n'a pas besoin de le donner au Kohen. Et là, la question qu'ils ont posée à Rava, c'est dans le cas de Behemat Arnona. Donc il va prendre une bête parmi les bêtes qui vont naître, pas forcément le Bechor. Donc on ne sait pas quelle bête le roi va prendre. Donc c'est pas spécifiquement le Bechor qui appartient au roi. Est-ce que ça suffit pour le rendre patour du din de Bechor? Ou malgré tout il y a la kdusha de Bechor? Et la Gemara développe la question. Elle dit « Kolecha de matse meselekle bezuze lo kamivayalan de chayav ». Dans le cas où le propriétaire des bêtes peut donner de l'argent au roi à la place de la bête que le roi devrait prendre, là, la question ne se pose pas, c'est sûr que c'est Khayav de Bechor, parce que, en réalité, c'est pas, la bête n'appartient pas au Goy, il n'y a aucune bête qui appartient au Goy, puisque il peut donner au roi de l'argent à la place. Et la question qui se pose, c'est seulement dans le cas où il ne peut pas lui donner de l'argent, donc il va prendre forcément une bête. Mai, quel est le din? Est-ce que ça suffit pour le rendre patour de Bechora, même si il va pas forcément prendre le Bechor, ou alors, puisque ça va pas être forcément le Bechor, c'est Khayav de Bechora. Amar Léo Ptoura. Rava leur a répondu que cette bête était Ptoura de Bechor. Vatania, Khayevet. Je me demande, mais pourtant on enseigne à la Breta que la Arnona est Khayevet. Et on comprend que il s'agit ici de la Arnona des animaux, de la taxe que le roi percevait sur les animaux, c'est Khayav de Bechora. Il m'a répondu, Atam de Matse Messalekle. Là-bas, on parle dans le cas où il peut lui donner de l'argent à la place. C'est pour ça que c'est Khayav de Bechora. Ika de Amré, il y a une autre version qui dit, Amar Rava, Rava a dit, Behemat Arnona Ptora Mina Bechora, Afalgav de Matse Messalekle. Qu'un animal de Arnona, c'est-à-dire qui est touché par la taxe du roi, elle est Ptora du din de Bechor, même si on peut lui donner de l'argent à la place, mais tant qu'on n'a pas donné d'argent au roi, il a une mainmise sur ses animaux, il a un droit sur ses animaux, donc ça les rend patour de Bechora. Par contre, Issa Tarnona, Chayevet Bechala, la Falgav de l'Omatse Mesalekle. Si c'est une patte qui est touchée par la taxe du roi, parce qu'il percevait aussi une taxe sur la récolte, et il pouvait arriver qu'il la prenne seulement une fois qu'on avait fait la patte, donc c'est Chayev de Chala, même dans le cas où il ne peut pas lui donner de l'argent à la place. Malgré tout, c'est Khayav de Khala. Et d'après cette explication, la Braïta qui a été rapportée plus haute, qui dit que Khayevet, que Arnona et Khayevet, on parle de la Arnona de la pâte, et non pas de la Arnona des animaux. Et là, c'est Khayav. Et la Gemara demande Maïtahama, pourquoi? Donc pourquoi cette différence? Puisque pour la pâte aussi, il y a un din qu'une pâte qui appartient à un goy qui est, quand on a pétri la pâte, elle appartenait au goy, elle est patour de chala. Ça veut dire que si, quand on enlève la part du goy, il n'y a plus le chiour qui est chayav de chala, la quantité de farine qui reste aux juifs n'est pas suffisante pour rendre chayav de chala, c'est patour de chala. Donc pourquoi est-ce que cette issa tarnona est chayavet de chala? Pourquoi la pâte qui est touchée par la taxe du roi et Chayevet de Chala? La Gemara répond, Behema et Tlekala, Isal et Tlakala. La différence, c'est qu'un animal, il y a un col, c'est-à-dire que tout le monde sait que ça appartient en partie au roi, et donc tout le monde va comprendre pourquoi c'est pas grave de Bechora. Il risque pas d'y avoir de confusion avec un cas où ça n'appartiendrait pas, où il n'y aurait pas de taxes. Alors que la pâte, il n'y a pas de col, c'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément que le roi perçoit une taxe là-dessus, parce que soit parce que il est possible qu'il réussisse à échapper à cette taxe, à ne pas payer cette taxe, soit parce que généralement cette taxe était prélevée sur la récolte avant qu'on en fasse de la pâte. Donc les gens pensent que quand on fait une pâte, c'est déjà une pâte qui a été qui est après qu'on ait payé les taxes. Donc il n'y a pas de colle, c'est-à-dire que les gens ne savent pas que le roi a une part dans cette pâte, et donc les gens risquent de penser que il ne prélève pas la challah, bien que ça appartient complètement aux juifs. Donc c'est pour ça que les Chachamim l'ont rendu chayav de challah. Tanou Rabbanan, on enseigne à la Bréta, Nochri shenichnas lechatzero shel Israël ou batseko beyado, en zakouk lever. Si un goy rentre dans la cour d'un juif avec une pâte dans la main, le juif n'a pas l'obligation d'éliminer ce chametz, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de le faire sortir, puisque ce chametz ne lui appartient pas et qu'il n'a pas de responsabilité dessus. Ifkido etzlo zakouk lever. Par contre, s'il lui a confié cette pâte, il lui a confié ce pain, donc il a une part, il a une, pardon, il a une responsabilité sur ce chametz. À partir du moment où il a une responsabilité, comme on a vu plus haut, il a une mitzvah de l'éliminer. Il n'a pas le droit de la garder à la maison. Yichred lo bayit en zakouk lever. Maintenant, dans le cas où le goy lui a demandé de lui garder son chametz, mais le juif n'a pas pris le chametz chez lui, mais il lui a réservé un emplacement, il lui a dit, si tu veux, tu peux le poser ici. Là, il n'a pas besoin de faire de biour, il n'a pas besoin de l'éliminer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il n'a pas pris de responsabilité, parce qu'à partir du moment où il lui a désigné un endroit, il lui a dit, pose-le là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la responsabilité, il autorise seulement, il lui prête un emplacement pour que le goy dépose son chametz là-bas, mais sans prendre de responsabilité. À partir du moment où il n'a pas de responsabilité, il n'est pas chayav de l'éliminer. Chez Nehemar, lo imatse, parce que c'est écrit dans le pasouk, lo imatse. Alors, demande Maïka Amar. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le pasouk de lo imatse nous apprend que il n'a pas besoin de faire de biour si il lui a réservé un emplacement pour son chametz? Amar Rav Papa a dit, Arishakae, ça se rapporte sur le cas précédent. Lorsque la Braïta cite ce pasouk de lo imatse, ça ne vient pas justifier le dernier din, mais le din précédent. Et voilà ce que la Braïta veut dire. Ifkido etzlo zakouk lever shenemar lo imatse. S'il lui a confié son chametz, il doit l'éliminer, parce que c'est écrit dans le pasouk lo imatse. Et comme on avait vu plus haut, dans ce pasouk, c'est pas écrit lecha. Donc c'est-à-dire, même si ce chametz ne t'appartient pas, mais comme tu as une responsabilité dessus et que c'est chez toi, il faut que tu l'élimines. Ravashi Amar, Leolam Asefakae. Ravashi dit non, on peut toujours dire que ce pasouk se rapporte sur la Sefa, sur le dernier cas, sur le cas où il lui a réservé un emplacement, il lui a dit de déposer son chametz là-bas. Ve'achik Amar, et voilà ce que la Braïta veut dire, Yichred lo bayit en zakouk lever, shenemar lo imatse bebatechem, ve'ha'ilav lidehu. Lorsqu'il lui a réservé un emplacement dans la maison pour déposer son chametz, il n'a pas besoin d'éliminer ce chametz, parce que c'est écrit dans le pasouk Lo imatse bevatechem. Or, ce chametz n'est pas à lui. Ça veut dire que le pasouk de Lo imatse, ça suppose que c'est quelque chose qui est matsui beyadecha. Ça veut dire que tu as un lien avec ce chametz, donc que tu as pris la responsabilité. Mais comme dans ce cas-là, il n'a pas pris la responsabilité, il a juste autorisé à déposer son chametz chez lui. Donc comme c'est pas à lui, ça veut dire que il n'a pas de lien avec ce chametz, il n'a pas d'obligation de biour. Donc des nochri qui kamehayil, les bêta de nafshe kamehayil, parce que lorsque le goy fait rentrer ce chametz, il le fait rentrer dans sa propre maison, c'est-à-dire que le juif lui a prêté un endroit pour déposer son chametz, et le goy le dépose à cet endroit qui est comme le sien, donc le juif n'a aucune responsabilité là-dessus. M'a dit les mêmes des Sri Kanya, mais alors ça suppose que une location, c'est comme une acquisition. Donc ça veut dire que ici on voit que quand il lui a prêté un emplacement, c'est comme si cet emplacement était maintenant au goy, Et donc, c'est pour ça que le juif n'a pas d'obligation de d'éliminer le chametz. Donc, ça veut dire que sreirut kanya, c'est-à-dire que quand on loue un endroit, c'est comme si on l'avait acquis. Ve'atnan, pourtant, l'ancien Mishnah, av bimkom shamru le'askir, lo le'bet dira amru, mifnei she'machnisim le'tocho avodat gilulim. Donc, c'est une Mishnah dans Avodah Zara qui dit que même là où on a permis de louer une maison à un goy, donc c'est-à-dire que en Eretz Israël, on n'a pas le droit de louer une maison à un goy parce qu'on n'a pas le droit de lui vendre une maison à cause du issur de Lo Techonem, et les Chachamim ont interdit également de lui louer une maison parce que ça ressemble à une vente. Et la Mishnah dit que même dans les endroits où on a le droit de lui louer une maison, donc ça veut dire en Chutz La'aretz, mais c'est pas pour y habiter. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a le droit de lui louer que pour entreposer de la marchandise ou autre chose, mais pas pour y habiter. Pourquoi? Parce que les endroits où les goyim habitent, ils rentrent l'avodah zara. On n'a pas le droit de rentrer de l'avodah zara dans sa maison, lo tachnis toeva el betecha. Donc, on n'a pas le droit de lui louer pour habiter. Vei salka da'atach de sreirut kanya ki kamei le beten nafshei kamei. Or, si tu pensais que la sreirut c'est comme un kinyan, donc c'est-à-dire que quand le goy a loué la maison, c'est comme s'il l'avait achetée. Donc quand il rentre là à Avodah Zara, il rentre dans sa propre maison, pas dans la maison du juif. Donc il n'y a pas de issur. Donc pourquoi est-ce que on lui interdit de lui louer pour qu'il y habite? Ma réponse, Shaneacha, Dafke, Rachamana, Belachon, Loimatse. Ici c'est différent. Même si effectivement on pense que Sreirut Lakanya, que la location c'est pas comme une acquisition, mais ici comme le pasouk s'est exprimé en utilisant le terme de lohimatsé, mishematsui beyadecha, donc c'est-à-dire seulement quelque chose qui est entre tes mains, c'est-à-dire avec lequel tu as un lien, yatsaze shenomatsui beyadecha, donc ça exclut ce chametz qui n'est pas entre tes mains, puisque tu lui as prêté l'emplacement, donc c'est plus entre tes mains et tu n'as plus de responsabilité vis-à-vis de ce chametz, donc il n'y a pas de mitzvah de biur. Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda Adinon de Rav, Amotze Chametz Bebeto Beyom Tov, Kofé Alav Et Akli. Celui qui trouve du Chametz dans sa maison pendant Yom Tov, il retourne un ustensile dessus. Ça veut dire que s'il a trouvé du Chametz dans sa maison pendant Yom Tov, c'est Mouktse. Le Chametz c'est Mouktse parce qu'on n'a pas le droit de le consommer, on n'a pas le droit d'en profiter, donc il est Mouktse. On n'a pas le droit non plus de le brûler, parce que comme on l'avait vu plus haut, c'est Avara Shelo Letzorer. À partir du moment où il a fait le bitoul, c'est une avara chez l'eau des horaires, mais il doit retourner un ustensile dessus à cause du risque de le manger. Il risquerait de le consommer, donc il doit retourner un keli dessus pour ne pas qu'il ne vienne à le consommer. Amar Rava, et Rava a dit, im shalekdesh hu enotzarich. Si ce chametz appartient au hekdesh, il n'a pas besoin de retourner un ustensile dessus parce que comme le Hekdesh, pendant toute l'année, il sait qu'il n'y touche pas parce qu'il est Hekdesh, donc il ne risque pas de le consommer même pendant Pessah. C'est seulement un Chametz qui, le reste de l'année, lui appartient et qu'il peut le consommer, donc il risquerait de le consommer aussi pendant Pessah. Mais quand c'est au Hekdesh, donc il sait qu'il y a un issour de consommer ce Chametz même pendant l'année, donc il risquerait pas de le consommer pendant Pessah non plus, donc il n'a pas besoin de retourner un keli dessus. Donc il explique pourquoi, parce que de toutes les façons il est séparé, il se sépare de ce chametz parce qu'il est Hekdesh même le reste de l'année. Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav, et Rav Yehuda a dit non de Rav, chametzo shel nochri osel o mechitza asarat tfachim mishum eker. Le chametz du goy, il faut faire devant une mechitza haute de 10 tfachim, donc une véritable mechitza, à cause de eker, ça veut dire pour se souvenir qu'il n'a pas le droit de consommer ce chametz, pour ne pas qu'il ne vienne à le consommer. Là, on ne se contente pas de retourner un ustensile dessus comme du Hametz qu'on a trouvé pendant Yom Tov. Et la raison, c'est parce que dans le cas du Hametz qu'on a trouvé pendant Yom Tov, on ne peut pas faire de Mechitza pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de construire une Mechitza pendant Yom Tov. Mais le Hametz du Goy, il y a la possibilité de faire une Mechitza. Donc a priori, il faut une Mechitza. Deuxième différence, c'est que le Hametz qu'on a trouvé pendant Yom Tov, c'est juste pour un jour au maximum qu'il faut le recouvrir pour ne pas risquer de le manger, puisque dès la sortie de Yom Tov, il va le brûler. Donc, on peut se contenter de retourner un ustensile dessus. Alors que le Chametz du Goy, qui peut être chez lui pendant tout Pessah, donc pendant les 7 jours de Pessah, là, il faut quelque chose de plus important, il faut une véritable Mechitza. Vim shel hekdesh hu, et là aussi, Rav Yehuda dit au nom de Rav que si c'est du Chametz du Hekdesh, qui est chez lui, Là, il n'a pas besoin de faire une mechitsa devant. Maïtahama, pour quelle raison? Mivdal bedidei in cheminé, parce que de toutes les façons, les gens se séparent de lui même pendant le reste de l'année. Amar Rav Yehuda Amar Rav, et Rav Yehuda a dit non de Rav, Amefaresh vayotze beshayara, celui qui prend la mer ou qui part en voyage avec une caravane, donc il part en voyage, si c'est Kodem Shloshimium, si il part en voyage plus de 30 jours avant Pessah, En Zakouk Levaya. Avant de partir, il n'a pas besoin de faire l'abdikat Hametz et le Biur Hametz, il n'a pas besoin de rechercher le Hametz et de l'éliminer. Donc Shloshimium, Zakouk Levaya. Par contre, si c'est déjà dans les 30 jours, il faut qu'il fasse l'abdikat Hametz. Donc ça veut dire que à partir de 30 jours avant Pessah, on commence déjà à avoir cette obligation d'abdikat Hametz. Et donc une fois que l'obligation est déjà là, même si on part en voyage, il faut s'acquitter de cette obligation avant de voyager. Alors que lorsqu'on part plus de 30 jours avant, là on n'a pas encore l'obligation de bdikat hametz. Donc quand on part, on n'a pas besoin de faire la bdikat hametz avant. Et la Gemara va expliquer après pourquoi 30 jours. Amar Abaye, Abaye a dit, Ade Amar Torshloshim Yom Zakouk, ce que tu as dit que s'il est parti dans les 30 jours qui précèdent Pessah, il doit faire la bdikat hametz au préalable. Lo Amaran El Hashedato Lachazor. On a dit ça seulement dans le cas où il a l'intention de revenir pendant Pessah. Où là, effectivement, il doit faire l'abdikat hametz avant. Aval en da'ato l'achazor, en zakouk lever. Mais dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir pendant Pessah, là, il n'a pas besoin de faire de bdikat hametz avant, puisque de toutes les façons, il ne sera pas chez lui pendant Pessah. La question se pose, mais même s'il n'est pas chez lui, mais le hametz lui appartient, il est dans sa propriété, donc il est sûr de balirer ou balimatsé. Donc, on avait vu plus haut que même si le hametz est couvert, il y a une sourde de Bali Atmin, on n'a pas le droit de cacher du Hametz pendant Pessah, parce que le Issour c'est même Bali Matzé, le Hametz ne doit pas se trouver chez soi, pas seulement dans le cas où on le voit, même dans le cas où on le voit pas. Alors Mefarshim m'explique que en réalité ici il y a un din, c'est un din qui ressemble au din de Hametz Shenafla Lav Mapolet, un Hametz qui a été enseveli sous un éboulement. Là il est considéré comme mévoir, comme s'il était déjà éliminé parce qu'il n'est pas accessible. Là aussi parce que comme le Hametz ne lui est pas accessible pendant Pessah, donc il ne transgresse pas le issur de Bali Ré ou Bali Matzé. Il faudra quand même qu'il fasse le Bitoul, mais en tous les cas il n'a pas besoin de faire de Bdikat Hametz. Amar le Rava, alors Rava dit à Abaye, Vida Atol Achazor Afilumero Shashanami. Mais dans le cas où il a l'intention de revenir chez lui, même s'il est parti depuis Rosh Hashanah, ça veut dire même depuis le début de l'année, même l'année précédente, après Pessah de l'année précédente, s'il part et qu'il sait qu'il va revenir pendant Pessah, il doit faire l'abdikat Hametz, puisque quand il va revenir, il va retrouver ce Hametz. Donc c'est pas comme un Hametz qui est enseveli sous un éboulement, puisqu'il sait qu'il va le découvrir pendant Pessah. Donc à ce moment-là, il va transgresser le issur de Bali Ré ou Bali Matzé. Et on peut pas compter uniquement sur le bitoul parce qu'il risquerait de ne pas faire de bitoul, parce qu'on va voir plus loin que dans le cas où le bitoul n'est pas relié à l'abdikat hametz, donc on craint qu'il ne le fasse pas. Donc là aussi, il y a un risque qu'il ne le fasse pas et donc il transgresse le issur de Bali Ré ou Bali Matzé. Et là, Amar Rava, donc Rava a dit, Ah, de Amar Tkodem Shoshimia Menzakouk Levaer, il dit au contraire, ce qu'on a dit que s'il voyage 30 jours avant Pessah, il n'a pas besoin de faire l'abdikat hametz avant. Lo Amaran et la chaîne d'Ato Lachazor. C'est seulement dans le cas où il n'a pas l'intention de revenir pendant Pessah. Aval d'Ato Lachazor, Afilou me Rosh Hashanah Zakouk Lever. Mais s'il a l'intention de revenir, même s'il part depuis Rosh Hashanah, il devra faire l'abdikat hametz avant de partir. Vazda Rava l'etame, et Rava suit son opinion, de Amar Rava, parce que Rava a dit, Aose Beto Tsar Kodem Shloshimium En Zakouk Lever. Celui qui entrepose de la récolte dans sa maison, si c'est 30 jours avant Pessah, plus de 30 jours avant Pessah, il n'a pas besoin de faire l'abdikat hametz de l'endroit où il va entreposer sa récolte avant d'entreposer là-bas la récolte ou la marchandise. Il n'a pas besoin de faire l'abdikat parce que là aussi, même s'il y a du hametz en dessous, mais c'est considéré comme mévoir, comme s'il était déjà éliminé, comme le hametz qui est enseveli sous un éboulement. Par contre, Torch Loshimium, Zakouk Lever. Mais si il veut entreposer la marchandise dans sa maison dans les 30 jours qui précèdent Pessah, il doit d'abord faire l'abdikat hametz de l'endroit et après seulement entreposer. קודם שלושים נמין ואמרה נלשם דעתו לפנותו, אבל דעתו לפנותו אפילו קודם שלושים יום נמין זקוק לבאר. Et quand on a dit que 30 jours avant, il n'y a pas besoin de faire de bika, c'est aussi uniquement dans le cas où il n'a pas l'intention de débarrasser donc ce qu'il a entreposé là-bas. Mais s'il a l'intention de débarrasser pendant Pessah, même si c'est plus de 30 jours avant Pessah, il doit faire la bdikat hametz avant. Alma demande, Hane Shloshim Yom, Mayavid Tayou. Ces 30 jours, à quoi ça correspond? Pourquoi est-ce qu'on a décidé que, à partir de 30 jours avant, il y a déjà un chiou de bdikat hametz, Kedetanea, comme ce qu'on a enseigné dans la Breita, Shoalin Vedorshin Milchot à Pessah, Kodam Pessah Shloshim Yom. Donc, la Breita dit que 30 jours avant Pessah, on commence à poser des questions et à enseigner les halakhot qui concernent Pessah. Donc, à partir du moment où on est déjà dans le sujet de Pessah, donc on a déjà une obligation de bdikat hametz. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Shte Shabbatot. Lui dit non, c'est pas 30 jours avant, c'est 2 semaines avant Pessah. Et Agma demande, Maïta Amad et Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi est-ce qu'il dit que on doit étudier les halakhot 30 jours avant? Sharé, Moshe omet de Pessah Rishon ou Mazir à la Pessah Sheni. Parce qu'on voit que, alors que Moshe se trouvait au moment de Pessah Rishon, donc c'est-à-dire du 15 Nissan, il enseignait déjà les halakhot de Pessah Sheni, qui est un mois après. Donc on voit que 30 jours avant, déjà on doit enseigner les halakhot de Pessah Sheni et Ma, puisque c'est écrit dans le Pasuk, Ve'yasu bnei Israël et Pessah v'moado. Alors en réalité ici, le Masorat Hashas dit qu'il faut dire Vayasu et Tapesach Barishon, Vayasu et Tapesach Barishon, c'est un autre pasouk, Vayasu et Tapesach Barishon, Urtiv, Vayhi Anashim Asherayut Mim le Nefesh Adam. Et c'est écrit tout de suite après qu'il y avait des gens qui étaient Tmeim et qui ne pouvaient pas faire donc le Korban Pessah, qui sont venus chez Moshe Rabbeinu lui demander comment est-ce qu'ils vont faire, qu'ils veulent quand même faire le Korban Pessah. Et c'est là que Moshe a demandé à Kadosh Baruch Hu et qu'il leur a donné les halakhot de Pessah Sheni, cette possibilité pour les gens qui sont tamés de faire Pessah, de faire le Korban Pessah un mois plus tard. Alors Tosfot pose la question, mais c'est pas une preuve. Effectivement, Moshe leur a enseigné ces halakhot à ce moment-là parce qu'ils lui ont posé la question, mais sinon il leur aurait pas enseigné les halakhot de Pessah Sheni 30 jours avant. Et Tosfot répond que malgré tout, même s'ils lui ont posé la question, il n'avait pas besoin de leur donner tous les détails de à la de Pessah Sheni, il aurait pu leur dire simplement que pour l'instant, ils ne peuvent pas faire le Pessah Rishon, mais il n'avait pas besoin de leur donner toute la de Pessah Sheni. S'il l'a fait, c'est parce qu'il faut enseigner la de Pessah 30 jours avant. Mais Rabban Shimon Gamliel Amar Lecha, alors Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il va faire avec cette preuve de Chachamim? Lui, il te dira, Aïdi, Daïre, Bemine de Pisra, Masik Leou Lechol Mine de Pisra. Comme il était déjà en train de parler du sujet de Pessah, donc il a traité tous les sujets de Pessah, même de Pessah Sheni, mais ça ne veut pas dire que les halakhot de Pessah, il faut en parler 30 jours avant. Maïta Amad et Rabban Shimon Gamliel. Maintenant, Agmar demande, mais Rabban Shimon Gamliel, pourquoi est-ce qu'il dit 2 semaines? Sharé Moshe Omed Berosh Achodesh ou Mazir à la Pessah. Parce qu'on voit que Moshe, le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est à ce moment-là qu'il leur a donné les halakhot de Pessah, chez Nehemar, comme c'est écrit dans le pasuk, Achodesh Adel Achem Rosh Chodashim. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Aaron, il leur a dit, Achodesh Adel Achem Rosh Chodashim, c'était Rosh Chodesh Nissan. Urtiv Dabrou El Koladat Israël est mort. Et à ce moment-là, il leur dit d'enseigner la halakhot de Pessah à tout le Bnei Israël. La Gemara demande, mais qui dit que ils ont enseigné effectivement la halakhot au Bnei Israël à Rosh Chodesh Nissan? Peut-être qu'ils les ont enseigné seulement plus tard, le 4 Nissan ou le 5 Nissan. Et là, Amar Rabba Bar Shimi, Mishmei de Ravina. Donc, Rabba Bar Shimi, au nom de Ravina, rapporte une autre source. Il dit, mais Acha, d'ici. Vaidaber Hashem el Moshe bin Bar Sinai Bashana Hashenit Bachodesh Harishon. Donc, il y a, le pasouk dit que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, donc, dans le Midbar Sinai, la deuxième année après la sortie d'Égypte, le premier mois, donc le mois de Nissan. Urtiv, Vayasu ben Israël tapasach ve moado. Et c'est écrit dans le pasouk, Vayasu, Bnei Israël tapasach b'moado, donc il leur a donné l'ordre de faire le Korban Pessah. Donc on voit que Rosh Chodesh Nissan, il leur a donné l'ordre de faire le Korban Pessah, donc pour 15 jours plus tard, pour 2 semaines plus tard. La Gemara demande, Hachanami, Mimai de Bereshir Chakae. Mais ici aussi, qui dit que c'était à Rosh Chodesh. C'est pas écrit dans le passage que c'était à Rosh Chodesh. Dima Berba Be'ercha Be'chamisha Be'ercha, peut-être que c'était le 4 Nissan ou le 5 Nissan. Dima Berba Be'ercha Be'chamisha Be'ercha, peut-être qu'il se trouvait le 4 Nissan ou le 5 Nissan. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Atia Midbar Mi Midbar. Donc Rav Nachman Bar Yitzchak dit, on apprend, on fait une dirashava du mot Midbar d'un autre endroit où c'est écrit le mot Midbar. Ktivacha Be'midbar Sinai. Ici c'est écrit Be'midbar Sinai. Va d'abord Hashem Moshe Be'midbar Sinai. Uktivatam. Et là-bas c'est écrit dans Parashat Bamidbar, va d'abord Hashem El Moshe Bamidbar Sinai Boel Moed Bechad Lachodesh Hasheni, que Kadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe dans le Midbar Sinai, dans le Boel Moed, le premier du deuxième mois, donc le premier du mois de Iyar, Malé Alan Berosh Chodesh, Afkan Berosh Chodesh, de la même manière que là-bas il s'agit de Rosh Chodesh. Ici aussi, quand c'est écrit va d'abord Hashem El Moshe Bamidbar Sinai, il s'agit de Rosh Chodesh. Donc c'est de là que Rabban Shimon Gamliel a appris qu'il faut enseigner la halakhot de Pessah 2 semaines avant. La Gemara demande, venir tov berisha de chodesh rishon, vadar niftov de chodesh sheni. La Gemara s'étonne maintenant sur l'ordre dans lequel la Torah rapporte ces choses-là. Donc, on a vu que au début du Sefer de Bamidbar, dans le premier pasuk de Bamidbar, c'est écrit Vaydaber Hashem Moshe Bamidbar Sinai Boel Boed Beichad la chodesh sheni. Donc, on parle du premier Iyar de la deuxième année des Bnei Israël de leur sortie d'Égypte, et dans la paracha de Béalotra, donc le pasouk qu'on avait vu précédemment, c'est dans la paracha de Béalotra, et d'abord Hashem Moshe Bimbar Sinai Bashana Hashenit Bachodesh Arishon. Là on parle de Rosh Chodesh Nissan. Donc la Gemara s'étonne, elle dit Venirtov Berisha de Chodesh Rishon, Venirtov de Chodesh Sheni. La Torah aurait dû d'abord rapporter ce paragraphe qui se passe à Rosh Chodesh Nissan, et après rapporter le paragraphe de Parashat Be'alotra, et après rapporter le paragraphe de Parashat Bamidbar, qui parle de Rosh Chodesh Iyar. Amar Rav Menashe Bar Tachlifa Mishmede Rav, Rav Menashe Bar Tachlifa Adinon de Rav, Zotomeret En Mugdam Mokhar Batora. On voit de là qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, donc il peut y avoir des paragraphes qui se sont passés plus tôt, et qui apparaissent plus tard dans la Torah. Amar Rav Papa, Rav Papa a dit lo amaran el abitrei inyane. Aval bechad inyana may de mugdam mugdam ou may de meucha meucha. Rav Papa dit tout ça c'est seulement s'il s'agit de deux paragraphes. Deux paragraphes ne sont pas obligés d'être dans l'ordre chronologique. Mais dans le même paragraphe, ce qui est avant est avant, ce qui est après est après. Donc là, il y a un véritable ordre. De ilo te maachi, parce que si tu dis pas comme ça, klal uprat en bechad inyana mashe uprat, de ma prat uchlal u. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter le pasouk sous forme de klal uprat? Il y a un principe de klal uprat quand le pasouk cite une règle générale et après un détail, on dit que en baklal et la mashé uprat. Donc c'est-à-dire que la règle n'inclut que le détail. C'est-à-dire que finalement, le din dont la Torah parle ne s'applique que dans le cas qui est détaillé après et pas dans un autre cas que ça. Donc ça c'est la règle de klal uprat. Et il dit si il n'y a pas d'ordre même dans le même paragraphe, peut-être qu'en fait quand Akadosh Baruch Hu a donné cet ordre, il avait donné dans l'autre donc quand il a donné cette mitzvah, il a donné dans un autre ordre, il a dit d'abord le prat, d'abord le détail et après le klal et après la règle. Et donc c'est prat ou klal et c'est pas et c'est pas un klal ou prat. Vetu et également prat ou klal nasa klal musaf ala prat. Dans le cas contraire où on a dans la Torah d'abord le détail et après la règle, là on dit que la règle est venue ajouter sur le détail, donc est venue élargir, que c'est pas seulement dans le cas du détail mais dans tous les cas en général, dans tous les cas qui sont englobés dans cette règle. Donc Dilma klal uprat ou là aussi peut-être que c'est pas dans l'ordre et qu'en réalité c'est un klal uprat et c'est pas un prat ou klal. La Gemara demande yachi afilu bitrei inyanein ami. Alors si c'est comme ça, si tu me prouves à partir du principe de prat ou klal ou de klal uprat que l'ordre que la Torah suit effectivement l'ordre chronologique, donc si c'est comme ça, hein, même quand c'est dans deux sujets, c'est-à-dire même quand c'est dans deux paragraphes, tu devrais dire que on suit l'ordre chronologique. Et l'Agma explique sa question. Elle dit Hani chaleman damar klal uprat amerucha kim zemizen dalinotov klal uprat shapir. Alors on comprend bien d'après celui qui dit que lorsque le klal et le prat qui sont cités dans la Torah sont éloignés l'un de l'autre, ils sont pas suivis, on n'interprète pas sous forme de klal uprat. Alors là effectivement on comprend. Alors on comprend que effectivement deux paragraphes ne sont peut-être pas dans l'ordre chronologique, puisqu'on n'a pas de preuve du klal uprat que ça suit un ordre chronologique, puisque de toutes les façons, on n'interprète pas un klal ou prat qui sont éloignés l'un de l'autre. Et là, les mandamars d'Anin, Maïka et Mema, mais celui qui dit que on interprète le klal ou prat même quand ils sont éloignés l'un de l'autre, alors qu'est-ce qu'on va dire? Et effectivement, ça veut dire que même si ces deux paragraphes, il y a un ordre chronologique. Il m'a dit, Afilou le mandamar d'Anin, même celui qui dit que on interprète un klal ou prat même quand ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est seulement s'ils sont écrits dans le même sujet. Donc le même à propos du même sujet, là effectivement il y a un ordre. Mais si c'est deux sujets différents, là on n'interprétera pas le klal ou prat ou le prat ou klal, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un on ne suit pas la Torah ne suit pas forcément l'ordre chronologique. Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda dit nom de Rav, Habodek Tzarich Shevatel. Celui qui fait l'abdikat Hametz, il doit immédiatement après l'abdikat Hametz faire un bitoul. Donc le bitoul, c'est ce qu'on fait, effectivement, c'est ce qu'on fait après l'abdikat Hametz. On dit qu'al Khamira, des Kabeshuti, des Lachadite, etc. Donc l'Iutil, Velevé Kafadara, donc c'est-à-dire que on le considère comme annulé et comme la poussière de la terre, c'est-à-dire on ne lui accorde pas d'importance. Selon certains Rishonim, c'est une forme de efker, d'autres disent que c'est pas tout à fait efker, mais c'est exprimé que ça n'a pas d'importance pour nous. Donc Rav Yehuda dit au nom de Rav, on se contente pas de faire l'abdikat Hametz, mais après l'abdikat Hametz, on fait également un bitoul. On avait déjà dit plus haut que le bitoul ne suffit pas, bien que Minatora il devrait suffire, mais les Chachamim ont institué de faire l'abdikat Hametz et de ne pas se contenter du bitoul parce que on craint soit que il ne fasse pas le bitoul, que son bitoul ne soit pas sincère, soit on craint que il mange le chametz s'il le garde à la maison, même s'il a fait le bitoul. Mais là, Rav Yehuda dit, Rav Yehuda au nom de Rav dit également l'inverse. Une fois qu'on a fait l'abdika, il faut faire aussi un bitoul. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Alors, selon le Ran, c'est une takana de Rav. La Mishnah ne parle pas de bitoul, donc il pense que à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas cette obligation de faire le bitoul et que ça a été institué par Rav. Et la Gemara demande Maïtama, mais pour quelle raison est-ce qu'il faut faire un bitoul une fois qu'on a fait déjà l'abdika? Si on a fait l'abdika et qu'on a recherché le Hametz, donc a priori ça devrait suffire. Et même s'il serait possible que quelque chose lui ait échappé, mais il transgresserait pas le issur de Balira ou Balimatsé par rapport à ça, puisque il a recherché autant que possible le Hametz et qu'il a éliminé ce qu'il a trouvé. Donc pourquoi est-ce que on va exiger qu'il fasse un bitoul après? La Gemara dit, in ima mishum pirurin, alo chashive. Si tu dis que c'est à cause des miettes, ici ça veut dire dans le sens des petits morceaux de pain qui font moins d'un kazaït, mais ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si on dit que le problème c'est que dans la bdikat Hametz, on ne peut pas retrouver tous les petits morceaux de Hametz qu'il y a dans la maison. Donc il pourrait y avoir des morceaux de Hametz qui font moins d'un kazaït et qui vont rester dans la maison. Il dit, mais ça c'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas d'importance. Alors, il y a une machloket entre les rishonim, est-ce que on transgresse le issur de Balira ou Balimatsé pour des morceaux de Hametz qui font moins d'un kazaït? Il y a certains rishonim qui pensent qu'il y a un issur de Balira ou Balimatsé, même s'il n'y a pas de chiyuv, parce qu'il y a tant qu'il n'y a pas le chiyur, la quantité d'un kazaït, mais chatzi chiyur asur minatora, donc il y a un issur minatora de Balira ou Balimatsé, même pour moins d'un kazaït. Et donc, c'est pour ça que on aurait pu penser que il faut effectivement faire un bitoul par rapport à ça. Et là-dessus, l'Agmara répond, mais non, mais ça n'a pas d'importance, donc ça s'annule automatiquement. On n'a même pas besoin de faire de bitoul. D'autres rishonim pensent que il n'y a pas de issur de Balira ou Balimatsé sur un morceau de moins d'un kazaït, mais quand même, il pourrait y en avoir plusieurs qui réunis ensemble formeraient un kazaït. Donc c'est pour ça que l'Agmara demande, propose que peut-être c'est par rapport à ces morceaux de moins d'un kazaït, mais l'Agmara répond que ça n'a pas d'importance. Vechitema, ici tu dis qu'Evan Emitarleu Agavbete, Chashive, que le fait qu'il les garde avec le reste de sa maison, ça leur donne de l'importance. C'est-à-dire que même s'il n'accorde pas d'importance à ces morceaux de Hametz de moins d'un kazaït, mais comme quand il garde sa maison, quand il ferme sa maison pour garder le reste du contenu de la maison, en même temps, il protège ces morceaux de Hametz de moins d'un kazaït, donc c'est ça qui va leur donner de l'importance. Et il m'a dit non, Vatania, pourtant, c'est un bretta. Sauf et teni ou mshaver sadeum pnei anavim. Sauf et anavim ou mshaver sadeum pnei mikshaot ou pnei midlaot. Que si quelqu'un a des figues sur son arbre qui sont à la fin de la saison des figues, donc après avoir déjà cueilli ses figues, il reste des figues sur l'arbre à la fin de la saison qui jamais ne mûriront. Donc c'est des mauvaises figues qui ne peuvent pas mûrir. Mais il garde son champ parce qu'il a aussi dans le champ du raisin, donc du raisin, du bon raisin. Donc à cause de ça, il garde son champ. Et dans le champ, il y a aussi ces figues qui sont des mauvaises figues. Ou alors, sauf un avis, on échamère. Il a du raisin qui est resté sur l'arbre après avoir fait les vendanges. Et là aussi, c'est du raisin qui ne va pas mûrir, qui est mauvais. Mais il garde son champ à cause des concombres, à cause des citrouilles qu'il a dans son champ. Bisman, chez Balabait, Makpidaleem, Asurim, Mishum, Gezel, Chayim. Si le Balabait leur accorde de l'importance, c'est qu'il est Makpid, c'est-à-dire qu'il veut pas qu'on les prenne. Donc, effectivement, il y a un issur de Gezel, parce qu'à partir du moment où il leur accorde de l'importance, on n'a pas le droit de les lui prendre. Et, d'autre part, c'est Chayav de Maaser, comme toute sa production. Bisman, chez Balabait, Makpidaleem, Mutarim, Mishum, Gezel, Obturim, Mishum, Maaser. Mais si le Balabait ne leur accorde pas d'importance, il n'est pas Makpid là-dessus. Donc on a le droit de les prendre et pas de issur de gezel, et c'est patour de maaser, comme tout ce qui est efker, qui est patour de maaser. Donc ça veut dire qu'on le considère comme efker. Donc on voit que bien qu'il garde son champ à cause d'autres choses qu'il y a dans le champ, mais c'est pas ça qui va accorder de l'importance à ses mauvaises figues ou à ses mauvais raisins. Donc là aussi, le fait que il ferme sa maison ne donne pas de l'importance à ces morceaux de pain qui font moins d'un kazaït. Amar Rava, alors Rava répond, pourquoi est-ce qu'on a quand même besoin de faire le bitoul? De peur qu'il trouve un beau morceau de pain pendant Pessah, donc qui a échappé à la bdikat hametz, donc ça peut arriver. Et même si jusque-là il n'a pas transgressé de issour, puisque il a fait la bdika et ça lui a échappé, donc il n'y a pas de issour de baliré ou balimatsé. Mais le problème, c'est que daaté il avait, c'est-à-dire qu'il risque de ne pas tout de suite le brûler, parce que il va avoir quelque part, il va avoir pitié de ce morceau de pain, c'est-à-dire que ça va lui faire mal au cœur de le brûler, donc ça va lui prendre un moment jusqu'à ce qu'il se décide à le brûler, et donc à ce moment-là, il va transgresser l'issur de Bali Ré ou Bali Matsé, parce qu'à ce moment-là, il l'a gardé, il l'a conservé pendant un moment, le temps de se décider à le brûler. Donc c'est pour ça qu'on fait un bitoul, comme ça, puisqu'il a fait le bitoul, ça lui appartient pas de toutes les façons, donc même s'il le voit et qu'il le brûle pas immédiatement, il transgressera pas l'issur de Bali Ré ou Bali Matsé. Agmara demande, mais dès qu'il le trouve, il a qu'à le faire le bitoul immédiatement, parce que ça le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est de brûler quelque chose, un joli morceau de Hametz. Mais si c'est juste faire le bitoul, ça, il est prêt à faire le bitoul. Donc, il a qu'à faire le bitoul dès qu'il le trouve. Agmara dit, Dilma Mashkachatle Vatar Isura, on craint que il trouve ce morceau de Hametz après le Zman du Issour, une fois qu'on n'a plus le droit de profiter du Hametz, et à ce moment-là, le Hametz n'est plus dans sa propriété, et donc il n'a plus de possibilité de faire le bitoul. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Hametz est assour, ben non, on n'a pas le droit d'en profiter, donc c'est comme s'il ne nous appartenait pas. Il n'y a plus de notion d'appartenance, à partir du moment où on ne peut pas en profiter, donc on ne possède rien dans ce Hametz, puisqu'on ne peut rien en faire, donc ça ne nous appartient plus, et quelque chose qui ne nous appartient pas, on ne peut pas faire de bitoul. Et la Gemara explique d'Amar Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer a dit, Shne dvarim enam birshuto shel adam, ve'asan hakatuv kilu birshuto. Il y a deux choses qui ne sont pas la propriété de l'homme, mais malgré tout, le pasouk l'a considéré comme sa propriété pour le rendre chayav. Ve'elouen, les voici, bor birshut arabim, ve'chametz mishesh shaot ulmala. C'est un bor dans le reshut arabim. Donc quelqu'un qui creuse un trou dans le reshut arabim, il est responsable des dommages que ce puits cause, bien que ce puits se trouve dans le Reshout Arabim et ne lui appartient pas. Donc c'est pas comme son animal qu'il a une responsabilité vis-à-vis de son animal, les dégâts que son animal peut causer. Là, ça lui appartient pas. Donc il devrait pas avoir d'obligation de dédommager les personnes qui ont été endommagées par son puits, par ce puits, puisque c'est pas le sien. Et d'autre part, même si c'est lui qui l'a creusé, mais ça c'est seulement grama, c'est indirect. Il cause des dégâts indirectement, donc il ne devrait pas être chayav à cause de ça. Et malgré tout, la Torah a considéré comme si le bor était le sien pour le rendre chayav, justement, puisque la Torah dit qu'il est chayav dans le cas où il creuse un trou. Donc on voit que la Torah lui donne la responsabilité comme si ça lui appartenait. Et pareil aussi par rapport au Hametz, comme on a dit, à partir du moment où il est assur bana, donc à partir de Chatzot, donc il ne lui appartient plus. s'il ne lui appartient plus, donc il ne devrait pas transgresser le issur de Baliré ou Balimatsé, puisque un Hametz qui ne lui appartient pas, il n'y a pas de issur de Baliré ou Balimatsé, comme on avait vu plus haut. Malgré tout, la Torah l'a considéré comme étant sa propriété après 6 heures pour le rendre chayav. Mais comme en fait ça ne lui appartient pas, il peut pas faire de bitoul. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de faire le bitoul avant Pessah pour s'assurer que même dans le cas où il va retrouver un beau morceau de chametz pendant Pessah, il ne transgressera pas le issur de Baliré ou Balimatsé s'il ne le brûle pas immédiatement.